Chapitre 16. Le roi s'ennuie, le roi s'amuse. Le roi qui était parti pour Marly, selon qu'il l'avait annoncé, donna l'ordre vers 3 heures de l'après-midi qu'on le conduisit à Lucienne. Il devait supposer que Madame du Barry, au reçu de son petit billet, s'empresserait de quitter à son tour Versailles pour aller l'attendre dans la charmante habitation qu'elle venait de se faire bâtir et que le roi avait déjà visitée 2 ou 3 fois, sans y avoir cependant jamais passé la nuit, sous prétexte, comme il l'avait dit, que Lucienne n'était point château royal. Aussi fut-il fort surpris en arrivant de trouver Zamore, très peu fier et très peu gouverneur, s'amusant à arracher les plumes de la perruche qui essayait de le mordre. Les deux favoris étaient en rivalité, comme Monsieur de Choiseul et Madame du Barry. Le roi s'installa dans le petit salon et renvoya sa suite. Il n'avait pas l'habitude de questionner les gens ni les valets, bien qu'il fût le plus curieux gentilhomme de son royaume. Mais Zamore n'était même pas un valet, c'était quelque chose qui prenait rang entre le sapajou et la perruche. Le roi questionna donc Zamore. « Madame la comtesse est-elle au jardin ?»« Non, maître, » dit Zamore. Ce mot remplaçait le titre de majesté dont Madame du Barry, par un de ses caprices, avait dépouillé le roi à Lucienne. « Elle est aux carpes, alors !» On avait creusé à grands frais un lac sur la montagne, on l'avait alimenté par les eaux de l'aqueduc, et l'on y avait transporté les plus belles carpes de Versailles. « Non, maître, » répondit encore Zamore. « Où est-elle donc ?»« À Paris, maître. » « Comment, à Paris ? La comtesse n'est pas venue à Lucienne ?»« Non, maître, mais elle y a envoyé Zamore. » « Et pourquoi faire ? Pour y attendre le roi. »« Ah ! » fit Louis XV, « on te commet le soin de me recevoir. »« C'est charmant, la société de Zamore. Merci, comtesse, merci. » Et le roi se leva un peu dépité. « Oh non !» dit le négrillon, « le roi n'aura pas la société de Zamore. »« Et pourquoi ? Parce que Zamore s'en va. »« Et où vas-tu ? À Paris. »« Alors je vais rester seul, de mieux en mieux, mais que vas-tu faire à Paris ?» Rejoindre maîtresse Barry et lui dire que le roi est à Lucienne. Ah, la comtesse t'a chargé de me dire cela, alors. Oui, maître. Elle ne t'a pas dit ce que je ferais en attendant. Elle a dit que tu dormirais. Au fait, pensa le roi, c'est qu'elle ne va pas tarder et qu'elle a quelques nouvelles surprises à me faire. Puis, tout haut, pardon, vite et ramène la comtesse. Mais à propos, comment t'en vas-tu? Sur le grand cheval blanc avec la housse rouge. « Et combien de temps faut-il au grand cheval blanc pour aller à Paris ?»« Je ne sais pas, » dit le nègre, « mais il va vite, vite, vite. Zamore aime aller vite. » Allons, c'est encore bien heureux que Zamore aime à aller vite. Et il se mit à la fenêtre pour voir partir Zamore. Un grand valet de pied le hissa sur le cheval et avec cette curieuse ignorance du danger qui appartient particulièrement à l'enfance, le négrillon partit au galop accroupi sur sa gigantesque monture. Le roi, demeuré seul, demanda au valet de pied s'il y avait quelque chose de nouveau à voir à Lucienne. « Il y a, » répondit le serviteur, « Monsieur Boucher, qui peint le grand cabinet de Madame la Comtesse. »« Ah, Boucher, ce pauvre bon Boucher, il est ici, » dit le roi avec une espèce de satisfaction. « Et où cela, dites-vous ? » « Au pavillon, dans le cabinet. Sa Majesté désire-t-elle que je le conduise près de Monsieur Boucher ?»« Oh non, » fut le roi, « non, décidément, j'aime mieux aller voir les carpes. Donne-moi un couteau. » « Un couteau, sire ? Oui, et un gros pain. » Le valet revint, portant sur un plat de faïence du Japon un gros pain rond dans lequel était fiché un couteau long et tranchant. Le roi fit signe au valet de l'accompagner et se dirigea satisfait vers l'étang. C'était une tradition de famille de donner à manger aux carpes. Le grand roi n'y manquait pas un seul jour. Louis XV s'assit sur un banc de mousse d'où la vue était charmante. Elle embrassait le petit lac d'abord avec ses rives gazonnées, au-delà le village planté entre les deux collines, dont l'une, celle de l'ouest, s'élève à pic comme la roche moussue de Virgile, de sorte que les maisons couvertes de chaume qu'elle supporte semblent des jouets d'enfants emballés dans une boîte pleine de fougères. Plus loin, les pignons de Saint-Germain, ses escaliers gigantesques et les touffes infinies de sa terrasse, plus loin encore les coteaux bleus de Sannois et Cormeil, enfin un ciel teinté de rose et de gris, enfermant tout cela comme eût fait une magnifique coupole de cuivre. Le temps était orageux, le feuillage tranchait en noir sur les prés d'un vert tendre. L'eau, immobile et unie comme une vaste surface d'huile, se trouait parfois tout à coup, quand de ses profondeurs glauques, quelques poissons, pareils à un éclat d'argent, s'élançaient pour saisir la mouche des étangs traînant ses longues pattes sur l'eau. Alors de grands cercles tremblotants s'élargissaient la surface du lac et moiraient toute la nappe de cercles blancs mêlés de cercles noirs. On voyait aussi sur les bords s'élever les museaux énormes de poissons silencieux qui, sûrs de n'avoir jamais à rencontrer ni l'hameçon ni la maille, venaient sucer les trèfles pendants et regarder de leurs gros yeux fixes, qui ne semblent pas voir, les petits lézards gris et les grenouilles vertes s'ébattant parmi les joncs. Quand le roi, en homme qui sait comment on perd son temps, eut regardé le paysage par tous les coins, compté les maisons du village et les villages de la perspective, il prit le pain dans l'assiette déposée à côté de lui et se mit à couper par grosses bouchées. Les carpes entendirent crier le fer sur la croûte et, familiarisées avec ce bruit qui leur annonçait le dîner, elles vinrent d'aussi près qu'il était possible se montrer à sa majesté pour qu'il lui plût de leur octroyer le repas quotidien. Elle en faisait autant pour le premier valet de pied, mais le roi crut naturellement qu'elle se mettait en frais pour lui. Il jeta les uns après les autres les morceaux de pain, qui, plongeant d'abord, puis revenant ensuite à la surface du lac, étaient disputés quelque temps, puis, tout à coup, s'émiettant, dissous par l'eau, disparaissaient en un instant. C'était en effet un assez curieux et assez amusant spectacle que celui de toutes ces croûtes poussées par des museaux invisibles et s'agitant sur l'eau jusqu'au moment où elles s'engloutissaient pour toujours. Au bout d'une demi-heure, Sa Majesté, qui avait eu la patience de couper 100 morceaux de pain à peu près, avait la satisfaction de n'en plus voir surnager un seul. Mais aussi alors le roi s'ennuya et se rappela que Monsieur Boucher pouvait lui offrir une distraction secondaire. Cette distraction était moins piquante que celle des carpes, c'est vrai, mais à la campagne, on prend ce que l'on trouve. Louis XV se dirigea donc vers le pavillon. Boucher était déjà prévenu. Tout en peignant, ou plutôt tout en faisant semblant de peindre, il suivait le roi des yeux. Il le vit s'acheminer vers le pavillon, et tout joyeux, rajusta son jabot, tira ses manchettes et monta sur son échelle, car on lui avait bien recommandé d'avoir l'air d'ignorer que le roi fût à Lucienne. Il entendit le parquet crier sous les pas du maître et se mit à blaireauter un amour joufflu dérobant une rose à une jeune bergère vêtue d'un corset de satin bleu et coiffée d'un chapeau de paille. La main lui tremblait, le cœur lui battait. Louis XV s'arrêta sur le seuil. « Ah, monsieur Boucher, lui dit-il, comme vous sentez la térébenthine !» Et il passa outre. Le pauvre boucher, si peu artiste que fût le roi, s'attendait à un autre compliment et faillit tomber de son échelle. Il descendit et s'en alla, les larmes aux yeux, sans gratter sa palette et sans laver ses pinceaux, ce qu'il ne manquait pas cependant de faire chaque soir. Sa Majesté tira sa montre, il était 7 heures. Louis XV rentra au château, lutina le singe, fit parler la perruche et tira des étagères, les unes après les autres, toutes les chinoiseries qu'elle contenait. La nuit vint. Sa Majesté n'aimait pas les appartements obscurs. On alluma, mais elle n'aimait pas davantage la solitude. « Mes chevaux, dans un quart d'heure, dit le roi. Ma foi, ajouta-t-il, je lui donne encore un quart d'heure, pas une minute de plus. » Et Louis XV se coucha sur le sofa en face de la cheminée, se donnant pour tâche d'attendre que les 15 minutes, c'est-à-dire 900 secondes, fussent écoulées. Au 400e battement du balancier de la pendule, laquelle représentait un éléphant bleu monté par une sultane rose, Sa Majesté dormait. Comme on le pense, le laquais qui venait pour annoncer que la voiture était prête, le voyant dormir, se garda bien de l'éveiller. Il résulta de cette attention pour l'auguste sommeil qu'en s'éveillant tout seul, le roi vit devant lui Madame du Barry, fort peu endormie à ce qu'il paraissait du moins, et qui le regardait avec de grands yeux. Zamore, à l'angle de la porte, attendait le premier ordre. « Ah, vous voilà, comtesse, dit le roi en restant assis, mais en reprenant la position verticale. « Mais oui, sire, me voilà, et depuis fort longtemps même, dit la comtesse. « Oh, c'est-à-dire depuis longtemps. Ah, « Dame, depuis 1 heure au moins. Oh, comme votre majesté dort. »« Ma foi, écoutez donc, comtesse, vous n'étiez point là et je m'ennuyais fort. Et puis je dors si mal la nuit. Savez-vous que j'allais partir? Oui, j'ai vu les chevaux de votre majesté attelés. Le roi regarda la pendule. Oh, mais 10 heures et demie, dit-il, j'ai dormi près de 3 heures. Tout autant, sire, dites qu'on ne dort pas bien à Lucienne. Ma foi, si, mais que diable vois-je là? S'écria le roi en apercevant Zamore. Vous voyez le gouverneur de Lucienne, sire. Pas encore, pas encore, dit le roi en riant. Comment ce drôle-là porte l'uniforme avant d'être nommé? Il compte donc bien sur ma parole. Sire, votre parole est sacrée, et nous avons tous le droit de compter dessus. Mais Zamore a plus que votre parole, ou plutôt moins que votre parole, sire. Il a son brevet. Comment? Le vice-chancelier me l'a envoyé, le voici. Maintenant, le serment est la seule formalité qui manque à son installation. Faites-le jurer vite et qu'il nous garde. Approchez, monsieur le gouverneur, dit le roi. Zamore s'approcha. Il était vêtu d'un habit d'uniforme à collet brodé, avec des épaulettes de capitaine, la culotte courte, les bas de soie et l'épée en broche. Il marchait, roide et compassé, un énorme chapeau à 3 cornes sous le bras. Saura-t-il jurer seulement? Dit le roi. Oh que oui, essayez, sire. Avancez à Londres, dit le roi, regardant curieusement cette noire poupée. À genoux, dit la comtesse. Prêtez serment, ajouta Louis XV. L'enfant posa une main sur son cœur, l'autre dans les mains du roi, et dit. Je jure foi et hommage à mon maître et à ma maîtresse, je jure de défendre jusqu'à la mort le château dont on me confie la garde, et d'en manger jusqu'au dernier pot de confiture avant de me rendre si on m'attaquait. Le roi se mit à rire, tant de la formule du serment que du sérieux avec lequel Zamore le prononçait. En retour de ce serment, répliqua-t-il en reprenant la gravité convenable, je vous confère, monsieur le gouverneur, le droit souverain, droit de haute et basse justice sur tous ceux qui habitent l'air, la terre, le feu et l'eau de ce palais. Merci, maître, dit Zamore en se relevant. Et maintenant, dit le roi, va promener ton bel habit aux cuisines et laisse-nous tranquilles, va. Zamore sortit. Comme Zamore sortait par une porte, Chon entrait par une autre. Ah, vous voilà, petite Chon, bonjour, Chon. Le roi l'attira sur ses genoux et l'embrassa. Voyons, ma petite Chon, continua-t-il, tu vas me dire la vérité, toi. Ah, prenez garde, sire, dit Chon, vous tombez mal. La vérité, je crois que ce serait la première fois de ma vie. Si vous voulez savoir la vérité, adressez-vous à Jeanne, elle ne sait pas mentir, elle. Est-ce vrai, comtesse? Sûr, Chon a trop bonne opinion de moi, l'exemple m'a perdu, et depuis ce soir surtout, je suis décidé à mentir comme une vraie comtesse, si la vérité n'est pas bonne à dire. Ah, dit le roi, il paraît que Chon a quelque chose à me cacher. Ma foi, non. Quelques petits ducs, quelques petits marquis, quelques petits vicomtes que l'on sera allé voir. Je ne crois pas, répliqua la comtesse. Qu'en dit Chon? Nous ne croyons pas, sire. Il faudra que je me fasse faire là-dessus un rapport de la police. De celle de monsieur de Sartine ou de la mienne? De celle de monsieur de Sartine. Et combien le payerez-vous? S'il me dit des choses curieuses, je ne marchanderai pas. Alors donnez la préférence à ma police et prenez mon rapport, je vous servirai royalement. Vous vous vendrez vous-même? Pourquoi pas, si la somme vaut le secret? Eh bien, soit, voyons le rapport, et surtout pas de mensonges. La France, vous m'insultez. Je veux dire, pas de détour. Eh bien, sire, apprêtez les fonds, voici le rapport. J'y suis, dit le roi en faisant sonner quelques pièces d'or au fond de sa poche. D'abord, la comtesse, Madame du Barry, a été vue à Paris vers 2 heures de l'après-midi. Après, je sais cela. Rue de Valois. Je ne dis pas non. Vers 6 heures, Zamore est venu les rejoindre. C'est encore possible, mais qu'allait faire Madame du Barry, rue de Valois? Elle allait chez elle. Je comprends bien, mais pourquoi allait-elle chez elle? Pour attendre sa marraine. Sa marraine, dit le roi avec une grimace qu'il ne put dissimuler tout à fait. Elle va donc se faire baptiser. Oui, sire, sur les grands fonts de Versailles. Ma foi, elle a tort. Le paganisme lui allait si bien. Que voulez-vous, sire? Vous savez le proverbe. On veut avoir ce qu'on n'a pas. De sorte que nous voulons avoir une marraine. Et nous l'avons, sire. Le roi tressaillit et haussa les épaules. J'aime beaucoup ce mouvement, sire. Il me prouve que votre majesté serait désespérée de voir la défaite des Grammont, des Guéménée et de toutes les bégueules de la cour. Plaît-il? Mais sans doute vous vous liguez avec tous ces gens-là. Je me ligue, comtesse, apprenez une chose, c'est qu'un roi ne se ligue qu'avec des rois. C'est vrai, mais tous vos rois sont les amis de monsieur de Choiseul. Revenons à votre marraine, comtesse. J'aime mieux cela, sire. Vous êtes donc parvenue à en fabriquer une? Je l'ai trouvée toute faite et de bonne façon, encore une comtesse de Béarn, famille de princes qui ont régné, rien que cela. Celle-là ne déshonorera pas l'allié des alliés des Stuarts, j'espère. La comtesse de Béarn, fit le roi avec surprise, je n'en connais qu'une qui doit habiter du côté de Verdun. C'est celle-là même, elle a fait le voyage tout exprès. Elle vous donnera la main, les deux mains. Et quand cela? Demain, à 11 heures du matin, elle aura l'honneur d'être reçue en audience secrète par moi, et en même temps, si la question n'est pas bien indiscrète, elle demandera au roi de fixer son jour, et vous le lui fixerez le plus rapproché possible, n'est-ce pas, monsieur la France? Le roi se prit à rire, mais sans franchise. Sans doute, dit-il en baisant la main de la comtesse, mais tout à coup, demain, à 11 heures, s'écria-t-il. Sans doute, à l'heure du déjeuner. Impossible, cher ami. Comment impossible? Je ne déjeune pas ici, je me retourne ce soir. Que son corps, dit madame du Barry, qui sentait le froid lui monter jusqu'au cœur. Vous partez, sire? Il le faut bien, chère comtesse, j'ai donné rendez-vous à Sartine pour un travail très pressé. Comme vous voudrez, sire, mais vous souperez au moins, j'espère. Oh oui, je souperai peut-être. Oui, j'ai assez faim, je souperai. Fais servir, chon, dit la comtesse à sa sœur en lui adressant un signe particulier qui avait sans doute rapport à une convention arrêtée d'avance. Chon sortit. Le roi avait vu le signe dans une glace et, quoiqu'il n'eût pas pu le comprendre, il devina un piège. Eh bien, non, non, dit-il, impossible même de souper. Il faut que je parte à l'instant même. J'ai les signatures, c'est aujourd'hui samedi. Allons, soit, je vais faire avancer les chevaux, alors. Oui, chère belle. Chon! Chon reparut. Les chevaux du roi, dit la comtesse. Bien, dit Chon, avec un sourire, et elle sortit de nouveau. Un instant après, on entendit sa voix qui criait dans l'antichambre. Les chevaux du roi! Le roi, charmé de son coup d'autorité, qui punissait la comtesse d'avoir fait attendre, en même temps qu'il le délivrait des soucis de la présentation, marcha vers la porte du salon. Chon rentrait. Eh bien, voyez-vous mon service? Non, sire, il n'y a personne à votre majesté dans les antichambres. Le roi s'avança jusqu'à la porte à son tour. Mon service! Cria-t-il. Personne ne répondit. On eût dit que le château muet n'avait même pas d'écho. Qui diable croirait, dit le roi en rentrant dans la chambre, que je suis le petit-fils de celui qui a dit j'ai failli attendre, et il alla vers la fenêtre qu'il ouvrit. Mais l'esplanade était vide, comme les antichambres, ni chevaux, ni piqueurs, ni gardes. La nuit seulement s'offrait aux yeux et à l'âme, dans tout son calme et dans toute sa majesté, éclairée par une admirable lune qui montrait, tremblante comme des vagues agitées, la cime des arbres des bois de Chatou, qui arrachaient des millions de paillettes lumineuses de la Seine, serpents gigantesques et paresseux, dont on pouvait suivre les replis depuis Bougival jusqu'à Maison, c'est-à-dire pendant 4 ou 5 lieues de tours et de détours. Puis, au milieu de tout cela, un rossignol improvisait un de ces chants merveilleux, comme on n'en entend que pendant le mois de mai, comme si ces notes joyeuses ne pouvaient trouver une nature digne d'elles que pendant ces premières journées de printemps que l'on s'enfuit à peine venu. Toute cette harmonie fut perdue pour Louis XV, roi peu rêveur, peu poète, peu artiste, mais très matériel. Voyons, comtesse, dit-il avec dépit, commandez, je vous en supplie, que diable, il faut que cette plaisanterie ait une fin. Sire, répondit la comtesse avec cette charmante bouderie qui lui réussissait presque toujours, ce n'est pas moi qui commande ici. En tout cas, ce n'est pas moi non plus, dit Louis XV, car voyez un peu comme on m'obéit. Ce n'est pas vous plus que moi, sire. Mais qui donc alors est ce vous, chon? Moi, lui dit la jeune femme, assise de l'autre côté de la chambre sur un fauteuil où elle faisait pendant avec la comtesse, j'ai bien de la peine à obéir, ce n'est pas pour prendre celle de commander. Mais qui donc est le maître alors? Dame sire, monsieur le gouverneur, monsieur Zamor, oui, bon, c'est juste, consonne quelqu'un. La comtesse, avec un geste d'adorable nonchalance, étendit le bras vers un cordon de soie terminé par un gland de perles et sonna. Un valet de pied, à qui la leçon était, selon toute probabilité, faite d'avance, se trouvait dans l'antichambre. Le gouverneur, dit le roi. Le gouverneur, répondit respectueusement le valet, veille sur les jours précieux de votre majesté. Où est-il? En ronde. En ronde? Répéta le roi. Avec quatre officiers, répondit le valet. Juste comme monsieur de Marlborough, s'écria la comtesse. Le roi ne put réprimer un sourire. Oui, c'est drôle, dit-il, mais cela n'empêche pas qu'on attelle. Sire, monsieur le gouverneur a fait fermer les écuries de peur qu'elles ne donnassent refuge à quelque malfaiteur. Mes piqueurs, où sont-ils? Au commun, sire. Que font-ils? Ils dorment. Comment ils dorment? Par ordre. Par ordre de qui? Par ordre du gouverneur. Mais les portes, dit le roi. Quelles portes, sire? Mais les portes du château. Elles sont fermées. Très bien, mais on peut s'en procurer les clés. Sire, les clés sont à la ceinture du gouverneur. Voilà un château bien tenu, dit le roi. Peste, quel ordre! Le valet de pied sortit, voyant que le roi ne lui adressait pas de nouvelles questions. La comtesse, étendue sur un fauteuil, mordillait une belle rose, près de laquelle ses lèvres semblaient de corail. Voyons, sire, lui dit-elle avec ce sourire languissant qui n'appartenait qu'à elle, j'ai pitié de votre majesté, prenez mon bras et mettons-nous en quête. Chon, éclaire le chemin. Chon sortit la première, faisant l'avant-garde et prête à signaler les périls s'ils s'en présentaient. Au détour du premier corridor, un parfum qui eût éveillé l'appétit du gourmet le plus délicat commença de chatouiller les narines du roi. Ah, dit-il en s'arrêtant, qu'est-ce donc que cette odeur, comtesse? Dame sire, c'est celle du souper. Je croyais que le roi me faisait l'honneur de souper à Lucienne et je m'étais arrangé en conséquence. Louis XV respira deux ou trois fois le parfum gastronomique, tout en réfléchissant à part lui que son estomac lui donnait déjà depuis quelque temps signe d'existence, qu'il lui faudrait, en faisant grand bruit, une demi-heure pour éveiller les piqueurs, un quart d'heure pour atteler les chevaux, 10 minutes pour aller à Marly, qu'à Marly, où il n'était pas attendu, il ne trouverait qu'un encas, il respira encore le fumet séducteur et, conduisant la comtesse, il s'arrêta devant la porte de la salle à manger. Deux couverts étaient mis sur une table splendidement éclairée et somptueusement servie. Peste, dit Louis XV, vous avez un bon cuisinier, comtesse. Sire, c'était justement son coup d'essai aujourd'hui, et le pauvre diable avait fait merveille pour mériter l'approbation de votre majesté. Il est capable de se couper la gorge comme ce pauvre Vatel. Vraiment, vous croyez? Dit Louis XV. Il y avait surtout une omelette aux œufs de faisan, sire, sur laquelle il comptait. Une omelette aux yeux de faisan, justement, je les adore, les omelettes aux œufs de faisan. Voyez quel malheur. Eh bien, comtesse, ne faisons pas de chagrin à votre cuisinier, dit le roi en riant, et peut-être, tandis que nous souperons, maître Zamor rentrera-t-il de sa ronde. Ah, sire, c'est une triomphante idée, dit la comtesse, ne pouvant cacher sa satisfaction d'avoir gagné cette première manche. Venez, sire, venez. Mais qui nous servira? Dit le roi, cherchant inutilement un seul laquais. Ah, sire, dit madame du Barry, votre café vous semble-t-il plus mauvais quand c'est moi qui vous le présente? Non, comtesse, je dirais même quand c'est vous qui le faites. Eh bien, venez donc, sire. Deux couverts seulement, dit le roi, et Chon a donc soupé. Sire, on n'aurait pas osé, sans un ordre exprès de votre majesté. Allons donc, dit le roi, en prenant lui-même une assiette et un couvert sur une étagère. Viens, petite Chon, là, en face de nous. Oh, sire, dit Chon, Ah oui, fais-la très humble et très obéissante sujette, hypocrite. Mettez-vous la comtesse près de moi, de côté. Ah, quel charmant profil vous avez. C'est d'aujourd'hui que vous remarquez cela, monsieur la France. Que voulez-vous? J'ai pris l'habitude de vous regarder en face, comtesse. Décidément, votre cuisinier est un grand cordon. Quel bisque! J'ai donc eu raison de renvoyer l'autre, parfaitement raison. Allons, sire, suivez mon exemple, vous voyez qu'il n'y a qu'à gagner. Je ne vous comprends pas. J'ai renvoyé mon choiseul, renvoyez le vôtre. Pas de politique, comtesse, donnez-moi de ce madère. Le roi tendit son verre, la comtesse prit une carafe à goulot étroit et servit le roi. La pression fit blanchir les doigts et rougir les ongles du gracieux échanson. Versez longtemps et doucement, comtesse, dit le roi. Pour ne pas troubler la liqueur, sire. Non, pour me donner le temps de voir votre main. Ah, décidément, sire, dit la comtesse en riant, votre majesté est en train de faire des découvertes. Ah, ma foi, oui, dit le roi, qui reprenait peu à peu sa belle humeur, je crois que je suis tout près de découvrir. Un monde? Demanda la comtesse. Non, non, dit le roi, un monde, c'est trop ambitieux, j'ai déjà assez bien d'un royaume, mais une île, un petit coin de terre, une montagne enchantée, un palais dont une dame de mes amies sera l'armide et dont toutes sortes de monstres défendront l'entrée quand il me plaira d'oublier. Sire, dit la comtesse en présentant au roi une carafe de vin de champagne glacée, invention tout à fait nouvelle à cette époque, voici justement une eau puisée au fleuve Léthé. Au fleuve Léthé, comtesse, en êtes-vous sûre? Oui, sire, c'est le pauvre Jean qui l'a rapporté des enfers où il vient de descendre aux trois quarts. Comtesse, dit le roi en levant son verre à son heureuse résurrection, mais pas de politique, je vous prie. Alors je ne sais plus de quoi parler, sire, et si votre majesté voulait raconter une histoire, elle qui raconte si bien. Non, mais je vais vous dire des vers. Des vers? S'écria madame du Barry. Oui, des vers. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Votre majesté les déteste. Oh, parbleu, sur 100 000 qui se fabriquent, il y en a 90 000 contre moi. Et ceux que votre majesté va me dire appartiennent aux 10 000 qui ne peuvent lui faire trouver grâce pour les 90 000 autres? Non, comtesse, ceux que je vais vous dire vous sont adressés. À moi? À vous. Et par qui? Par monsieur de Voltaire. Et il charge votre majesté? Non, pas du tout. Il les adressait directement à votre Altesse. Comment cela, sans lettre? Au contraire, avec une lettre toute charmante. Ah, je comprends, votre majesté a travaillé ce matin avec son directeur des postes. Justement. Lisez, sire, lisez les vers de monsieur de Voltaire. Louis XV déplia un petit papier et lut. Déesse des plaisirs, tendre mère des grâces, pourquoi veux-tu mêler au fait de Paphos les noirs soupçons, les honteuses disgrâces? Pourquoi médites-tu la perte d'un héros? Ulysse est cher à la patrie, il est l'appui d'Agamemnon, sa politique active et son vaste génie enchaînent la valeur de la fière Ilion. Soumets les dieux à ton empire, Vénus sur tous les cœurs règne par la beauté, cueille dans un riant délire les roses de la volupté. Mais à nos yeux daigne sourire et rend le calme à Neptune agité. Ulysse, ce mortel aux Troyens formidable que tu poursuis de ton courroux, par la beauté n'est redoutable qu'en soupirant à ses genoux. Décidément, sire, dit la comtesse plutôt piquée que reconnaissante du poétique envoi, décidément, monsieur de Voltaire veut se raccommoder avec vous. Oh, quant à cela, c'est peine perdue, dit Louis XV. C'est un brouillon qui mettrait tout à sac s'il rentrait à Paris. Qu'il aille chez son ami, mon cousin Frédéric II, c'est déjà bien assez que nous ayons monsieur Rousseau. Mais prenez donc ces vers, comtesse, et méditez-les. La comtesse prit le papier, le roula en forme d'allumette et le déposa près de son assiette. Le roi la regardait faire. Sire, dit-on, un peu de ce tocaille? Il vient des caves même de sa majesté l'empereur d'Autriche, dit la comtesse. Prenez de confiance, sire. Oh, des caves de l'empereur, dit le roi, il n'y a que moi qui en ai. Aussi me vient-il de votre sommelier, sire. Comment, vous avez séduit? Non, j'ai ordonné. Bien répondu, comtesse, le roi est un sot. Oui, oui, mais monsieur la France. Monsieur la France a au moins le bon esprit de vous aimer de tout son cœur, lui. Ah, sire, pourquoi n'êtes-vous pas véritablement monsieur la France tout court? Comtesse, pas de politique. Le roi prendra-t-il du café, dit-on? Certainement. Et sa majesté le brûlera comme d'habitude? Demanda la comtesse. Si la dame Châtelaine ne s'y oppose pas. La comtesse se leva. Que faites-vous? Je vais vous servir, monseigneur. Allons, dit le roi en s'allongeant sur sa chaise comme un homme qui a parfaitement soupé et dont un bon repas a mis les humeurs en équilibre. Allons, je vois que ce que j'ai de mieux à faire est de vous laisser faire, comtesse. La comtesse apporta sur un réchaud d'argent une petite cafetière contenant le moka brûlant. Puis elle posa devant le roi une assiette supportant une tasse de vermeil et un petit carafon de bohème. Puis, près de l'assiette, elle posa une petite allumette de papier. Le roi, avec l'attention profonde qu'il donnait d'habitude à cette opération, calcula son sucre, mesura son café, et, versant doucement son eau-de-vie pour que l'alcool surnageât, il prit le rouleau de papier qu'il alluma à la bougie et avec lequel il communiqua la flamme à la liqueur brûlante. Puis, il le jeta dans le réchaud, où il acheva de se consumer. 5 minutes après, il savourait son café avec toute la volupté d'un gastronome achevé. La comtesse le laissa faire, mais à la dernière goutte, « Ah si !» s'écria-t-elle, « vous avez allumé votre café avec les vers de monsieur de Voltaire. Cela portera malheur au choiseul. » « Je me trompais, » dit le roi en riant, « vous n'êtes pas une fée, vous êtes un démon. » La comtesse se leva. « Sire, » dit-elle, « votre majesté veut-elle voir si le gouverneur est rentré ?» « Ah, Zamor, pourquoi faire? Mais pour vous en aller à Marly, si... »« Hein, c'est vrai, » dit le roi en faisant un effort pour s'arracher au bien-être qu'il éprouvait. « Allons voir, comtesse, allons voir. » Madame du Barry fit un signe à Chon qui s'éclipsa. Le roi reprit son investigation, mais il faut le dire avec un esprit bien différent de celui qui avait présidé au commencement de la recherche. Les philosophes ont dit que la façon sombre aux couleurs de rose dont l'homme envisage les choses dépend presque toujours de l'état de leur estomac. Or, comme les rois ont des estomacs d'hommes, moins bons généralement que ceux de leurs sujets, c'est vrai, mais communiquant leur bien-être ou leur mal-être au reste du corps exactement comme les autres, le roi paraissait d'aussi charmante humeur qu'il est possible à un roi de l'être. Au bout de 10 pas faits dans le corridor, un nouveau parfum vint par bouffées au-devant du roi. Une porte donnant sur une charmante chambre tendue de satin bleu, brochée de fleurs naturelles, venait de s'ouvrir et découvrait, éclairée par une mystérieuse lumière, l'alcôve vers laquelle, depuis 2 heures, avaient tendu les pas de l'enchanteresse. « Eh bien, sire, dit-elle, il paraît que Zamor n'a point reparu, et nous sommes toujours enfermés, et qu'à moins que nous ne nous sauvions du château par les fenêtres, avec les draps du lit, demanda le roi. « Sire, dit la comtesse avec un admirable sourire, usons, n'abusons pas. » Le roi ouvrit les bras en riant, et la comtesse laissa tomber la belle rose qui s'effeuilla en roulant sur le tapis.